Lundi, le 12 mars 2018, c'est l'émission Les Voix de Service Magazine qui vous accueille en ce début de semaine, et qui donne des airs un peu de printemps à l'extérieur avec un beau soleil. Claude Blas, c'est mon nom, et très en forme afin de vous livrer une émission avec la lecture de magazines ou de blogs sur différents sujets. Et naturellement, pour m'aider dans cette tâche, on salue tout d'abord vous ce matin.
Oui, ça va bien. Effectivement, le printemps avant la neige de demain, ça s'annonce pas mal demain. Bref, mes articles pour aujourd'hui. Le premier, c'est « Créer pour exister ». Je l'ai trouvé dans l'itinéraire du 1er mars 2018 et il est écrit par Yannick Marcil. Et puis en deuxième partie, je lirai deux papiers écrits par Linda Presley dans Le Bel Âge. Et vous allez entendre parler de deux animatrices que vous entendez ici. C'est Clotilde Seille et Hélène Denis.
Merci beaucoup, Monsieur Roger Roy. Comment va-t-il ce matin?
Il va très bien. On parlait du printemps. Alors, l'actualité aussi, au printemps, chaque année, on publie un texte sur le marché immobilier à Montréal et Québec. Et cette année, 2018, ne fait pas exception. Alors, c'est dans l'édition du mois d'avril de l'actualité. Et deuxième sujet, comment voyagent les chefs-d'œuvre? En l'occurrence, il s'agit des chefs-d'œuvre d'Alberto Giacometti.
Ah, d'accord.
Ce sont des œuvres assez courtes. Ce sont de très longues statues, graciles, très élancées et très fragiles.
D'accord, bien hâte d'entendre
ça. Comment il fait voyager?
Oui, c'est bien. Et de mon côté, je vous dis, à l'hôpital, il faut sortir du lit, saviez-vous? C'est un article que j'ai retrouvé voilà quelques temps, mais je trouvais quand même d'actualité. Et comme deuxième article, pas de retraite pour la santé mentale, alors je vous reviendrai avec ça un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, dans quelques instants, on s'en va avec Franceline. Alors, Madame Nieuviard, comment premier article, quand même.
Madame, j'étais surprise par le nom. Bien, alors mon premier article est créé pour exister. Compte en commun cette grand-mère qui peint des paysages à l'aquarelle et ce jeune homme qui fait des graffitis sur les murs de la ville. Les œuvres, ni de l'une ni de l'autre, ne seront probablement pas reconnues par les institutions artistiques officielles. Tous les deux créent néanmoins leurs œuvres à partir de rien d'autre que leur imagination et leurs outils. Qu'est-ce qui les motive à créer? Chaque personne a bien sûr ses motivations individuelles. Il me semble y avoir quelque chose qui les unit cependant. Le désir d'exister et de le dire à la face du monde. D'exister avec les autres en quelque sorte. La grand-mère offrira peut-être ses aquarelles à ses petits-enfants ou les accrochera fièrement sur les murs de son salon et les fera admirer à ses visiteurs. Le jeune homme désire peut-être lancer aux passants qui verront son graffiti un message politique ou une expérience esthétique. Dans tous les cas, la personne qui crée une œuvre, peu importe quel est un statut d'artiste, officiel ou non, le fait ultimement pour entrer en relation avec l'autre, même si ce n'est pas sa motivation première. La création contribue à tisser le lien social. Il suffit de constater que même aujourd'hui, après un siècle de propositions artistiques irrévérencieuses et délibérément provocatrices, l'art et ses représentations suscitent encore souvent la polémique. Ces controverses qui génèrent des discussions enflammées tournent souvent autour de la légitimité de l'œuvre. On se questionne sur ce qu'est l'art en affirmant par exemple que son enfant de 5 ans aurait pu faire la même chose. Un débat qui remonte aux impressionnistes dont le travail était perçu comme un sacrilège pour l'art avec un grand A. À de nombreuses reprises cependant, ces polémiques font appel à des questions sociales et politiques qui dépassent largement le domaine artistique. À titre d'exemple, un musée britannique, le Manchester Art Gallery, a retiré une toile accrochée dans l'une de ses galeries. Ce tableau, Hylas et les nymphes, a été peint en 1896 par John William Waterhouse. Il s'agit là d'une œuvre magistrale, très belle. Le problème ? On y voit 7 jeunes, très jeunes femmes, seins nus, dans l'eau, donc les nymphes. À l'instar de la totalité des peintures présentées dans cette galerie, la femme est objectivée comme on le perçoit avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que son corps ne constitue qu'un objet de désir et de convoitise, ici par la beauté de son visage angélique, de sa chevelure chatoyante et de ses seins dénudés. Le musée a décidé de faire un coup d'éclat en retirant la toile et en la remplaçant par un petit écriteau expliquant que pendant des siècles, l'art occidental avait ramené le corps de la femme à un simple objet au même titre qu'un fruit dans une nature morte. Cela a créé scandale et a provoqué d'innombrables articles dans la presse. On a bien sûr crié à la censure, alors qu'on n'a rien fait d'autre que de retirer temporairement une toile de la galerie, les autres demeurant exposées. Et les intentions premières du musée semblent avoir été de lancer cette discussion publique sur la représentation du corps des femmes dans l'histoire de l'art occidental. On est bien évidemment très loin des intentions de notre grand-mère aquarelliste ou de notre jeune homme graffiteur. Mais au final, le résultat est le même. Utiliser la création comme moyen d'entrer en relation avec les autres. Moi aussi, mais aussi avec soi. Car en proposant aux autres ce que notre création permet, nous engageons nécessairement un dialogue social qui façonne notre propre identité. Si elle peut sembler anodine, elle n'est jamais innocente. Elle dit ce que nous sommes. Donc voilà l'article écrit dans l'itinéraire par Yannick Marcil. Et je voudrais terminer en vous signalant que le 7 mars, Yannick Marcil a lancé au Quai des Brumes, le Quai des Brumes, son ouvrage qui s'appelle « L'élan vers l'autre ». C'est un recueil de chroniques choisies qu'il a publié dans l'itinéraire au cours des 4 dernières années. Le livre se veut une invitation à la réflexion autant qu'à l'action citoyenne. C'est un appel à la solidarité et au vivre ensemble pour nourrir l'espoir. Vous savez que depuis 1994, Yannick Marcil vulgarise et rend intéressante l'économie, un sujet souvent peu accrocheur pour le lecteur moyen dans l'itinéraire. Dans chacune de ses chroniques, ce collaborateur à la fibre sociale développée réussit à humaniser les phénomènes économiques tout en nous faisant réfléchir. En effet, il s'indigne des injustices sociales, des divisions ethniques, des décisions de nos gouvernements et du pouvoir démesuré que s'accapare une poignée de privilégiés. Voilà, donc c'était à propos du livre qui s'intitule « L'élan vers l'autre », donc qui a été publié le 7 mars. Et donc c'est Yannick Marcil qui a écrit cela.
Donc, voilà. Il est déjà disponible.
On
voit, c'est le 7 mars. Eh bien, on reste dans la même veine avec Roger dans quelques instants qui nous parle aussi d'art et de création. Alors, Monsieur Roy, est-ce qu'on peut voyager?
Oui, certainement. Alors là, on ne parle pas de graffiti, là, on parle d'œuvres d'art là, reconnues mondialement. Mm-hmm. En d'autres mots, les œuvres d'Alberto Giacometti. Et comment voyagent ses chefs-d'œuvre à lui? Parce que, je vous en parle tout de suite. C'est un texte que l'on peut lire dans l'actualité du mois de mars, signé par Noémie Mercier, qui s'est intéressée à la question. Il n'existe sur la planète que quelques originaux de l'homme aux doigts d'Alberto Giacometti. Créé en 1947 et moulé 7 fois en bronze, c'est l'une des sculptures les plus célèbres de l'histoire de l'art. C'est aussi la plus chère. L'un des 7 exemplaires s'est vendu 141 millions de dollars américains aux enchères en 2015, un record de tous les temps pour une sculpture. L'homme aux doigts passe le printemps au Musée national des beaux-arts du Québec dans le cadre d'une rétrospective consacrée à cet artiste parmi les plus importants du 20e siècle. Quelques 150 œuvres y sont réunies jusqu'au 13 mai, bronze, plâtre, peinture et dessin couvrant ses 5 décennies de carrière des années 1920 aux années 1960. L'exposition, d'abord présentée au Tate Modern de Londres, s'arrêtera par la suite au Musée Guggenheim de New York, puis à celui de Bilbao en Espagne. Pour faire venir ces trésors à Québec, il a fallu prendre des précautions extrêmes. On n'expédie pas des chefs-d'œuvre d'une telle valeur par-delà l'océan comme on met une lettre à la poste. C'est la face cachée des expositions internationales qui partent en tournée dans plusieurs villes du monde, la logistique complexe associée au transport et à la sécurité des œuvres. Né en Suisse en 1901, Alberto Giacometti est surtout connu pour ses sculptures d'hommes et de femmes longilignes, émaciées, certaines grandeurs nature comme l'homme aux doigts et surtout l'homme qui marche, d'autres miniatures ou géantes. Des figures si frêles qu'on les dirait friables, puissants symboles de la précarité de l'existence. Les œuvres voyagent par avion cargo, dans des emballages conçus sur mesure pour chacune. Même les bronzes sont fragiles chez Giacometti, souligne Catherine Grenier. Elle est directrice de la Fondation d'Alberto Giacometti à Paris. Dans un transport en avion, ajoute-t-elle, une œuvre fine peut se casser d'elle-même à cause d'un choc thermique, d'une décompression ou, ce qui est le plus dommageable, des vibrations. Nous nous appuyons sur notre service de la régie qui a mis en place des procédures très rodées. On a défini le modèle idéal de caisse. Il s'agit d'une caisse double, remplie d'une mousse qui épouse les contours de la sculpture, l'isolant des chocs et des changements de température. C'est amusant à voir parce que la mousse est comme une sculpture, mais en contre-forme, en négatif. Pendant toute la durée de leur déplacement, les œuvres sont accompagnées par un employé de la Fondation Giacometti, qu'on appelle un convoyeur dans le jargon muséal. Il monte avec elles dans l'avion, puis dans le camion, jusqu'à leur livraison au lieu d'exposition. « Les caisses ne sont jamais laissées seules », résume Catherine Grenier, « pour des raisons de sécurité, mais aussi surtout pour surveiller les manipulations. Il arrive même, ajoute-t-elle, que certains collectionneurs privés exigent pour prêter des œuvres à un musée qu'elle voyage sous garde armée. De plus, à l'instar des membres de la famille royale, les objets ne prennent jamais tous le même vol pour éviter que la collection ne soit anéantie d'un coup en cas d'écrasement. Les 150 caisses destinées au Musée national des beaux-arts du Québec ont été acheminées dans 4 avions. Lorsque les pièces arrivent à destination, on les laisse reposer dans leur caisse au moins 24 heures, sans y toucher, afin qu'elles s'acclimatent à leur nouvel environnement. Ensuite, on les déballe et on les inspecte. Pendant plusieurs jours, des membres du personnel de la Fondation et du musée d'accueil les scrutent sous toutes leurs coutures afin de repérer la moindre égratignure qu'elles auraient pu subir pendant le transport. Catherine Grenier dit que de son vivant, Giacometti a connu son lot de pépins. Ça ne l'a pas empêché d'envoyer ses œuvres alors qu'à l'époque, il n'y avait pas ces emballages subtils et que très souvent, ils arrivaient abîmés. Il devait engager des restaurateurs pour les réparer. Ça faisait partie des risques à prendre pour pouvoir diffuser son art. Il y a des chefs-d'œuvre qui nous laissent sur notre faim lorsqu'on les découvre en personne. La Joconde, par exemple, paraît plus petite et plus terne en vrai qu'en photo et déçoit invariablement certains visiteurs du Louvre qui ont fait la queue pour la voir. Pas les sculptures de Giacometti. Il faut les contempler de ses propres yeux pour réellement les apprécier. Aucune photo ne peut rendre justice à leur présence fantomatique, aux nuances de rose, de vert, de jaune qu'on distingue dans le bronze sous la lumière, à leur surface rugueuse qui évoque tantôt la cire rongée d'une bougie, tantôt l'écorce d'un vieil arbre. Ce qu'on doit aux artistes, c'est de montrer leur travail, pas toujours aux mêmes gens, et d'aller vers de nouveaux publics, dit Catherine Grenier, parce que tout artiste peut être oublié avec le temps. C'est important de créer les conditions pour que les œuvres puissent continuer à circuler, mais de le faire en prenant le maximum de garanties, grâce aux nouvelles technologies qu'on a et à des protocoles bien perfectionnés. La commissaire dit d'ailleurs avoir constaté l'attrait qu'exerce Giacometti qu'on transporte son art au Maroc, en Chine ou au Royaume-Uni. Bûcheur acharné et solitaire, il a toujours vécu modestement, occupant le même atelier minuscule de Paris jusqu'à la fin de ses jours, malgré la notoriété qu'il avait acquise. Il n'a jamais appartenu à un mouvement défini et il refusait absolument de se laisser enfermer. Les visiteurs les plus érudits reconnaîtront chez lui l'influence de l'art égyptien, de l'art africain, celle du cubisme et du surréalisme aussi. Ils remarqueront qu'il a flirté avec l'art abstrait sans jamais y céder totalement, revenant toujours à son sujet de prédilection, la figure humaine, et cherchant sans relâche différentes manières de la représenter. Femme cuillère, tête à bouche béante posée sur une tige, jambes solitaires trônant sur son socle, corps aplati, buste d'homme au regard hanté par mille tourments, silhouette en mouvement. Sculpture longiligne, Œuvre fragile, œuvre émouvante que celle de Giacometti n'est pas facile de les faire voyager, mais semble-t-il, on y arrive et la directrice de la fondation, qui compte plus de 5000 œuvres, Catherine Grenier, dit qu'elle n'a pas vécu de catastrophe quand les œuvres de Giacometti ont fait de longs voyages. Exposition donc au Musée des beaux-arts du Québec à Québec jusqu'au 16 mai, Alberto Giacometti.
Très intéressant. Ça prend toute une logistique quand même. Hein? Ça doit prendre quand même assez de temps pour emballer tout.
L'histoire ne dit pas où se tient celui qui voyage avec l'œuvre. Je suppose que les œuvres sont dans la soute.
Et je suppose qu'il ne couche pas. Il voyage dans la soute peut-être? On les laisse jamais seuls. On s'en va à la pause musicale et tout de suite après, je vous lis un article et on dit à l'hôpital, il faut sortir du lit, il faut bouger apparemment.
On s'en allait chez nous comme ça. Dans nos jungles, le calme plat. Il a déboulé dans le soir en disant mes mal sont encore au port. Moi j'étais larguée, classée, elle était bouche bée et lui c'était Robert Taylor. Comme dans ses nouvelles pour dames de Somerset Maugham. Fait pour deux, c'est bon bout. Trois là-dedans, ça va plus du tout. Il avait gagné la cup, fumé Navy Cut, claqué les tirelis. Quand elle enlevait sa main de ma main, ses yeux de mes yeux. Je voudrais qu'il s'en aille, de quoi j'ai l'air. Avec mes détails, mes haltères. Il portait des lions sur le dos, pour elle comme cadeau. Ça salissait tout. Moi je me sentais vieillot, fidèle, propriétaire d'elle.
Un seul album hommage à Alain Souchon n'était pas assez. un album hommage qui est sorti l'an dernier, Souchon dans l'air. Et bien ça, c'est un extrait de l'album à paraître Souchon dans l'air, volume 2. C'était la chanteuse Karen Ann qui reprenait cette chanson d'Alain Souchon, une chanson à l'origine parue en 1983.
Oui, on disait en studio d'ailleurs qu'elle avait une très belle voix, une voix douce. Eh bien moi, j'ai été chercher un article dans le magazine Vivre en santé qui date quand même d'un peu de temps de 2016, mais je trouvais quand même assez intéressant cet article qui titre « À l'hôpital, on sort du lit et on bouge ». C'est une médecin qui s'appelle Michel Morin qui écrit « Enfant, quand j'étais malade, ma grand-mère me disait de garder le lit et de boire beaucoup de liquide. Eh bien aujourd'hui, elle travaille comme médecin dans un hôpital et elle répète à tous les jours aux personnes âgées sous ses soins de sortir du lit même fatiguée et de bouger même souffrante et de manger autant de protéines qu'elles le peuvent. Et elle dit « autre temps, autre mœurs ». Le mot « hôpital » vient du latin « hospitalis domus » qui signifie « lieu de refuge d'accueil ». Et l'époque n'est pas si lointaine où existaient encore les hospices, ces lieux où on prenait soin des plus fragiles. Nos hôpitaux de 2016-2017 en sont bien différents. On s'y occupe à perfection de l'organe défectueux, on y soigne très bien par des technologies de plus en plus poussées, la condition aiguë. Mais on omet parfois de prendre soin de la personne malade. On doit reconnaître que l'hôpital d'aujourd'hui, avec son rythme de soins de plus en plus rapide, n'est pas très bon pour la santé de la personne vieillissante. Celles et ceux d'entre vous qui avez été admis ou qui avez accompagné un proche récemment en conviendrez aisément. Les différents changements du vieillissement rendent l'aîné affaibli par la maladie plus vulnérable lors d'un séjour à l'hôpital. En 2010, pour aider les milieux hospitaliers à répondre encore mieux aux besoins particuliers des personnes âgées, le ministère de la Santé et des Services sociaux a élaboré le guide « Approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier ». Depuis, tous les hôpitaux de la province prennent des mesures pour adapter leurs soins à la condition des aînés. Ces mesures permettent de diminuer les événements indésirables lorsque ces personnes sont hospitalisées. Ainsi, les risques de confusion, de complications reliées au fait d'être couché plusieurs jours dans un lit sans se lever ou de recourir à un trop grand nombre de médicaments sont diminués. Dans ce changement de pratique, vous avez un rôle à jouer. Il vous appartient d'exercer votre pouvoir d'agir, de remplir votre rôle de partenaire de soins. Voici donc quelques conseils qui pourront vous guider, vous ou votre proche âgé, lors d'un éventuel séjour à l'hôpital. Sachez que le lit est votre pire ennemi à l'hôpital, alors bougez. Demandez que votre tête de lit, entre autres, soit élevée le plus souvent possible si votre condition interdit justement de vous lever. Sinon, prenez vos repas bien assis sur le bord du lit ou en fauteuil. Obtenez l'aide nécessaire pour vous remettre vite debout et faire quelques pas. Si vous ne devez pas marcher seul, demandez qu'un préposé, toujours si possible, vous accompagne au moins 3 fois par jour. Profitez de la visite de vos proches pour le faire aussi. Si vous utilisez déjà une canne ou une marchette, rappelez-leur de la porter à l'hôpital. Une journée complète au lit demande à l'aîné 3 jours d'effort pour reprendre les forces ainsi perdues. C'est souvent autant de jours de plus à l'hôpital. Deuxième conseil, participez dès que possible à votre toilette. Les soins d'hygiène, on dit. Demandez qu'on vous installe confortablement et sécuritairement et qu'on vous laisse tranquillement laver les parties de votre corps que vous pouvez. Et portez vos propres vêtements si vous n'avez plus d'examen à passer. C'est meilleur pour le moral et on se sent vite moins malade qu'en jaquette d'hôpital. Troisième conseil, si vous étiez continent au moment de votre entrée à l'hôpital, n'acceptez pas les protections, entre autres les culottes ou les couches comme solution facile. Demandez plutôt de l'aide pour vous rendre à la toilette. Si dans votre condition, la distance pour vous rendre à la toilette est trop grande, une chaise d'aisance près du lit pourrait présenter un compromis acceptable, le temps de prendre du mieux. Autre conseil, prenez le temps qu'il vous faut pour manger. Et si la nourriture vous déplaît, ce qui arrive assez souvent dans les hôpitaux, votre famille peut sans doute vous apporter ce que vous aimez. Les substituts de repas ne doivent pas remplacer les vrais repas, mais peuvent les compléter. Pourquoi ne pas prendre vos médicaments avec un peu de lait plutôt que de l'eau? Toutes les protéines comptent. En phase aiguë de maladie, le corps âgé a besoin d'une plus grande quantité de protéines pour guérir. Chaque bouchée doit être payante. L'hydratation est elle aussi très importante. Réclamez qu'un verre d'eau fraîche soit toujours à votre portée et prenez-en quelques gorgées à toutes les heures, à moins, bien sûr, de restrictions imposées par votre condition, entre autres pour ceux qui font de l'insuffisance cardiaque, un faible taux de sodium aussi dans le sang. Autre conseil, intéressez-vous aux médicaments qui vous sont administrés. Posez des questions au médecin. N'hésitez pas à nommer la douleur et tous vos inconforts. Et acceptez que la solution qu'on vous propose soit parfois autre chose que des médicaments. Bien souvent, ça fonctionne aussi bien que les pilules et avec beaucoup moins d'effets secondaires indésirables. Et finalement, si vous en avez, portez vos lunettes, vos appareils auditifs et vos prothèses dentaires. Ne les laissez pas sur la petite table de nuit. Utilisez le calendrier et l'horloge de votre chambre pour ne pas perdre la notion du temps aussi. Et s'il n'y en a pas, demandez une montre ou quelque chose qui peut vous indiquer l'heure. De petits conseils simples aussi, mais qui compteront beaucoup au moment de retrouver la santé, l'autonomie et la qualité de vie. Et sûrement la dignité aussi. Alors, très bel article que j'ai trouvé.
Absolument.
Qui datait quand même de quelques temps, mais,
il est toujours d'actualité.
Exactement. On vous revient dans quelques instants.
Oui, alors, quelques brèves. Une qui s'intitule « Les poubelles participatives de Ville-Marie ». En effet, une trentaine de poubelles, munies d'un arceau sur leur section supérieure, font dorénavant partie du paysage de certaines rues de l'arrondissement de Ville-Marie et permettent aux promeneurs d'y déposer les bouteilles et canettes consignées. Ce simple geste permet aux personnes intéressées de ramasser facilement ces matières recyclables sans avoir à chercher dans la poubelle. Cette initiative, fruit d'une collaboration entre l'arrondissement et la coopérative de solidarité Les Valoristes, contribue non seulement à la récupération et au recyclage, mais aussi à la réduction des déchets sauvages. Effectivement, c'est très intéressant. Apparemment, ce n'est que dans Ville-Marie actuellement, mais j'espère que ça va être plus distribué. Voilà, les poubelles participatives.
Ah, on va s'en servir. Restez là, il y a la deuxième partie de l'émission qui s'en vient avec des articles très intéressants encore une fois. Alors, on vous revient. À bientôt.
Pas grand monde à soir au Junction 101. Et le soleil couchant de la Saskatchewan passe à travers les stores et sa table avec moi. Pour jaser de son ennui, parler de mon émoi. Dehors, il y a l'horizon, le plus horizontal qu'on puisse imaginer, à part la mer étale. Et puis, à l'infini, de la plaine alentour, à Gravelbourg. Face à la cathédrale, sur la première avenue, il y a le curé Gravel, coincé dans sa statue. Je suis pas sûr qu'il aimerait se réveiller demain. pour se retrouver là, une bière à la main. What would you like to drink? M'a demandé Julie. La waitress du Wheatland, au sourire joli. Ça fait déjà longtemps qu'on crie plus au secours. À Gravelbourg. À Gravelbourg. Ça fait déjà longtemps qu'au pays français square, allez savoir comment, allez savoir pourquoi. On comprend que la vie, ça s'achète en anglais. Que ce soit pour une job ou un litre de lait. Mais l'on y chante encore, et l'on y chante en chœur. En français de chez nous, avec les mots du cœur. Comment vivre aujourd'hui, sans rêver de toujours. À Gravelbourg. Et l'on y chante en chœur. En français de chez nous, avec les mots du cœur. Comment vivre aujourd'hui, sans rêver de toujours. À Gravelbourg.
Le regretté mais fort talentueux Sylvain Lelièvre, c'est un extrait de son album de 1998, Les choses inutiles. La pièce s'intitulait Gravelbourg.
Merci beaucoup. Alors, Franceline, on va parler de deux collègues de la station ici.
Oui, oui, j'ai trouvé dans la revue Le Bel Âge de mars 2018 deux articles, un sur Clotilde Seille, l'autre sur Hélène Denis, donc deux animatrices dont vous entendez les voix chaque semaine ou chaque jour pour certaines. Alors, je vais commencer par Clotilde. Et l'article s'intitule « Clotilde Seille, une voix pour les plus démunis ». Choisir de devenir une pro de la communication orale alors qu'on est timide, ça prend une sacrée détermination. Clotilde Seille a relevé le défi et persévéré dans une profession dont elle ne s'est jamais lassée depuis. Aujourd'hui, la grande dame de la radio et de la télévision met sa vaste expérience au service des personnes avec une incapacité visuelle ou motrice, c'est précieux. D'origine française, mais citoyenne du monde autoproclamée, Clotilde Seille était animatrice à Radio France avant de se laisser porter par le vent jusqu'au Québec, où elle se pose pour de bon. Elle entre à Radio-Canada et y coiffe pendant 17 ans une multitude de chapeaux, notamment à la chaîne culturelle. De l'animation à la réalisation, j'ai pratiqué presque tous les métiers liés à la radio, se souvient l'artiste multidisciplinaire qui, à l'époque, faisait aussi de la musique et de la chanson et de la scène. Et puis, il y a 5 ans, le vent tourne. Avec les années qui passent, il faut savoir se repositionner dans la vie. À 55 ans, dit-elle, j'ai eu envie d'utiliser mon savoir-faire afin de contribuer au mieux-être des autres. À mes yeux, on doit s'entraider, sinon on est foutu. Clotilde propose alors ses services au Canal M, la radio de l'organisme Vues et Voix, autrefois appelé la Magnétothèque, qui se dédie entre autres à l'enregistrement de livres audio donc destiné aux personnes aînées ou présentant une déficience visuelle, auditive, motrice ou intellectuelle. Avec mon expérience dans l'univers de la communication orale, je me suis dit « Tiens, je ne suis certaine de ne pas faire une mauvaise lectrice. » En combinant deux de mes plaisirs, soit les livres et la radio, j'ai trouvé une façon de poursuivre ma carrière tout en rendant service. Au cours des 4 années suivantes, la dévouée bénévole assure l'enregistrement de livres audio ainsi que la formation de personnes intéressées à faire la lecture à haute voix. Elle anime par la suite l'émission Au quotidien, où elle fait chaque matin la lecture de journaux en direct pendant 3 heures, ainsi qu'à Livre Découvert, une émission littéraire consacrée aux livres audio. Elle emprunte alors la voie de la pédagogie en créant Parler au monde, une école où elle enseigne l'art de la communication orale, entre autres aux personnes éprouvant des difficultés à s'exprimer. Et devient également employée de Canal M, animatrice de l'émission Des livres plein les oreilles. Clotilde y accueille les Louise Portal, Serge Bouchard ou Marie Laberge de ce monde pour parler bouquins et informe les auditeurs des nouveautés littéraires disponibles en format audio au service québécois du livre adapté de la BANQ. Enrichissant comme expérience ? Oui, dit-elle. Malgré l'austérité économique, des centaines d'organismes réalisent un travail fantastique auprès des personnes vivant des difficultés. Il faut en parler et faire connaître à nos auditeurs les services conçus pour elles. En participant à ce partage de connaissances et du plaisir de la lecture, je me sens utile. Décidément, notre animatrice dynamique a le vent en poupe. Et là, vous pourrez l'entendre, j'ai entendu tout à l'heure, cet après-midi, lundi à 14h, dans l'émission Le National, et donc vous entendrez la voix dynamique de Clotilde Seille. Et maintenant, Hélène Denis, une animatrice à l'écoute. Chaque matin, Hélène Denis, animatrice sur les ondes du Canal M, épluche les journaux québécois à la recherche de manchettes susceptibles d'intéresser ses auditeurs pour ensuite les lire à haute voix à la radio. Donc, Linda Priestley, qui a écrit cet article et le précédent, a rencontré donc Hélène et elle dit « C'est une rencontre avec une communicatrice dévouée et drôlement renseignée. » Elle a parcouru du chemin la petite fille originaire de Vaudreuil qui habitait une maison juste en face du lac des Deux-Montagnes, tout près de celle de Félix Leclerc. Déterminée à saisir le micro et à parler à la radio, elle entreprend des études à l'Université de Montréal, puis à l'école Promédia. En 1989, son rêve se réalise. Elle décroche un poste d'animatrice sur les ondes de CKVD à Val-d'Or. Après un séjour de 5 ans en Abitibi-Témiscamingue, elle s'installe à Montréal et continue d'exercer son métier pour le compte de radios privées ainsi que de Radio-Canada à Ottawa. Puis, en janvier 2017 précisément, elle se retrouve au sein d'une nouvelle famille, celle du Canal M, cette radio consacrée aux personnes éprouvant des difficultés visuelles, auditives, motrices, cognitives ou autres. On lui confie alors l'animation de 2 émissions, le quotidien des quotidiens, qui va suivre donc cette émission que vous écoutez actuellement, et Par actualité. Depuis, la sympathique animatrice tire un grand plaisir de ce travail qu'elle considère comme un cadeau de la vie. Ce que je fais me permet d'unir plusieurs passions, la communication, le travail de la voix et la radio. Et par-dessus le marché, je me sens utile. Madame Denis se fait un devoir de parcourir chaque jour les quotidiens de Montréal, les journaux régionaux, nationaux et internationaux, ainsi que diverses autres publications, afin de choisir les sujets qui l'intéressent. Plus ils me captivent, meilleure sera ma lecture, dit-elle. Elle les lit ensuite en ondes, au grand plaisir de ses auditeurs, charmés par sa voix posée et mélodieuse, et elle dit « On m'en a déjà glissé un mot », avoue-t-elle humblement en riant. Elle poursuit sa journée de travail avec les Paractualités, un bulletin de nouvelles qui couvre les problèmes de handicap et qui comprend aussi des entrevues. Les auditeurs peuvent s'y renseigner sur les services, ateliers ou expositions conçus pour répondre à leurs besoins. L'animatrice ajoute que même si les personnes non-voyantes constituent une grande partie de l'auditoire, les émissions du Canal M s'adressent également aux personnes aux prises avec l'autisme, un TDAH, la dépression ou encore aux aînés dans les CHSLD par exemple. Bref, tous peuvent savourer les joies de la lecture, en plus d'être divertis et informés. Ça me donne vraiment l'impression de rendre service, lance Madame Denis avec enthousiasme. Je me sens réellement à ma place ici. Donc, on peut l'écouter en direct, tous les jours, du lundi au vendredi, à 10h, de 10h à midi. Et puis, avec les par actualités aussi, vous la retrouvez. Donc, voilà, deux portraits de femmes de Canal M, donc, excusez-moi, Clotilde Seille et Hélène Denis.
Oui, dans si vous voulez avoir des renseignements, en fait, sur le site internet, c'est canalm.buzezvoix.com.
Voilà,
alors,
merci.
Allez voir, ces émissions sont en reprise aussi pendant
Absolument.
Toute la journée.
Oui, oui.
Alors, M. Roy, tout autre sujet, l'immobilier.
Oui, en page couverture de l'actualité du mois d'avril, on voit un très beau nain de jardin, du genre de celui qu'on a vu dans Amélie Poulain, comment ça s'appelait?
Ah oui, absolument, oui.
Comment ça s'appelait, Amélie Poulain?
Amélie Poulain.
La fabuleuse
histoire.
Ouais. Ah, voilà, merci.
Comme ça, ouais. C'était le nain de jardin de son père qui voyageait beaucoup. Alors, on le voit ici dans l'actualité devant une très belle demeure. Avec le titre « Beau temps pour l'immobilier ». Hein? C'est Catherine Dubé qui s'est intéressée à l'état du marché immobilier de Montréal et du Québec. En 2018, elle écrit ceci. « L'année 2018 s'annonce bien pour les propriétaires qui planteront une pancarte à vendre devant leur maison. À Montréal, à Québec, à Gatineau, à Sherbrooke, il se vend plus de propriétés en ce début d'année qu'à pareille date l'an passé. 10% de plus en moyenne à l'échelle de la province en janvier, selon la Fédération des chambres immobilières du Québec. Le président de cette chambre, Patrick Joanneda, l'avait prédit en décembre dernier devant des centaines d'agents immobiliers québécois réunis au Palais des congrès de Montréal pour leur grand-messe annuelle, une journée de conférence sur l'état du marché. En plus de leur annoncer qu'un record de transactions, 82 639, avait été enregistré en 2017, Patrick Joanneda a affirmé que ce record serait battu en 2018 selon les calculs de ses analystes. « Préparez-vous à une autre année occupée », leur a-t-il lancé, tel un prédicateur, sous un tonnerre d'applaudissements. Les propriétaires qui vendent sans agent, et ils sont nombreux, ne seront pas en reste. Près d'une propriété sur cinq est maintenant vendue par l'intermédiaire de Duproprio au Québec. Un nombre record de propriétaires ont vendu grâce à nos services en 2017. Nous avons enregistré 19 051 transactions, une hausse de plus de 10 % par rapport à 2016, souligne Marco Dodier, président de Duproprio. Rien ne semble pouvoir ébranler le marché immobilier québécois. Alors que ceux de Toronto et de Vancouver subissent régulièrement des secousses, des hausses vertigineuses de 30 % du nombre de ventes suivies de baisses tout aussi abruptes, par exemple, à Montréal, ces variations du nombre de transactions n'ont jamais dépassé les 10 % au cours de la dernière décennie. Même si la croissance des prix a été forte depuis 20 ans au Québec, atteignant jusqu'à 14 % par année, elle n'a en rien été comparable à ce qu'on a vu à l'ouest de la rivière des Outaouais. Nous n'avons pas eu de hausse des prix de 30 % par année comme à Vancouver, note Joanie Fontaine, économiste pour JLR, une entreprise montréalaise spécialisée dans la compilation et la diffusion de données immobilières. Bonne nouvelle pour les acheteurs, les hausses spectaculaires des prix sont derrière eux. Par contre, les taux d'intérêt très faibles qui ont alimenté l'activité au cours de la dernière décennie ont déjà commencé à remonter. Mais pas de panique, les Québécois achètent en fonction de leurs moyens. Dans une telle situation, ils orientent simplement leur choix vers une propriété moins coûteuse, dit Denis Doucet, directeur de la gestion des talents à l'agence Multiprêt Hypothèque. La conjoncture financière internationale rend peu probable un retour au taux d'intérêt de 10 % ou plus qu'on a connu dans les années 1980 et 1990. Alors, je vous lis maintenant en vrac quelques extraits de ce dossier que publie l'actualité d'édition du mois d'avril. Variations régionales. Dans la région du Saguenay, où 1 200 emplois ont été perdus en 2017, on a enregistré une diminution de 2 % du nombre de ventes de propriétés, une cinquième baisse annuelle consécutive. À long terme, l'écart entre la région métropolitaine de Montréal et les régions éloignées ne fera que s'accentuer. L'Institut de la statistique du Québec estime que la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent,
de la Côte-Nord et de la Gaspésie pourrait chuter de près de 4 % d'ici 2036, ce qui aura des conséquences négatives sur le marché immobilier. À Laval et dans la Naudière, durant la même période, la population pourrait, à l'inverse, gonfler de 30 %. C'est quand même pas rien. Moins de Québécois remettent les clés à la banque. Ça, c'est à la page 36. Un peu plus de 2500 propriétaires incapables de rembourser leur emprunt ont dû remettre les clés de leur maison à la banque entre février 2017 et janvier 2018, soit 5 % de moins que l'année précédente, selon JLR. Ensuite, je me tourne vers la page 33, où on peut lire ceci. L'effet des acheteurs étrangers. Les montagnes russes des marchés immobiliers de Toronto et de Vancouver sont amplifiées par la présence d'acheteurs étrangers fortunés. Ces derniers doivent maintenant payer une taxe de 15 % à l'achat d'une propriété, une mesure qui a engendré une chute brutale du nombre de transactions et du prix des maisons, reparti à la hausse depuis. Ces acheteurs migreront-ils vers le marché montréalais? Pour le moment, ils représentent moins de 2 % des acheteurs à Montréal, estime la Société d'hypothèque et de logement SCHL, alors qu'ils possèdent 5 % des copropriétés à Vancouver, selon Statistique Canada. Fissure en vue si la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain en cours se termine mal, cela nuira aux exportations, au marché de l'emploi et, en dernière analyse, à l'immobilier. L'incertitude entourant l'avenir de l'ALENA brouille les perspectives économiques, a reconnu la Banque du Canada dans un communiqué publié à la mi-janvier. Maintenant, si vous voulez le palmarès immobilier, là, le prix médian des maisons à Montréal, à Westmount, c'est 1 500 000. À l'arrondissement du plateau Mont-Royal, le prix médian des maisons, les ventes, là, 794 000. À Verdun, c'est 778 000. À Beaconsfield, c'est 606 000. Ailleurs, on a des aubaines. À Thetford Mines, le prix médian, c'est 97 750. À Asbestas, c'est 106 000. À Matane, 125 000. À Dolbeau-Mistassini, 120 750. Une comparaison de l'augmentation du prix médian des maisons au cours des 5 dernières années aussi, d'autres statistiques. Au lac Brome, le prix en 2017 était de 354 000, une croissance de 57 % en 5 ans. Alors, il y a des grosses augmentations comme ça. Par exemple, à Mont-Laurier, c'est 30 % d'augmentation au cours des 5 dernières années. Alors, c'est le dossier immobilier, beau temps pour l'immobilier, c'est publié dans l'actualité du mois d'avril.
Oui, il y a différents coins au Québec hein, où est-ce que ça augmente et il y a d'autres coins où est-ce que ça baisse.
C'est ça.
Dépendamment. On cherche les grandes places urbaines. Alors, il n'y a pas de retraite pour la santé mentale et j'ai trouvé cet article encore une fois dans le même magazine, mais qui est très intéressant. Et on dit ceci, c'est que la santé mentale est un état de bien-être dans lequel la personne atteint ses buts, surmonte ses difficultés, est productive et contribue à la vie de sa communauté. La santé mentale est donc plus que l'absence de troubles mentaux. Elle est importante tout au long de la vie. Et on dit comment maintenir une bonne santé mentale. Ben, il faut participer à des activités valorisantes, comme le bénévolat, avoir de bonnes relations avec les autres, gérer le stress naturellement, faire des activités agréables. La plupart des aînés s'adaptent bien aux difficultés qui apparaissent souvent quand on avance en âge, comme la perte d'un proche ou les problèmes de santé. On pourrait penser que ces situations entraînent une diminution de la santé mentale, mais le sentiment de bien-être reste assez stable tout au long de l'âge adulte. Malgré tout, les troubles de la santé mentale touchent plusieurs aînés. Ces troubles peuvent débuter à l'âge adulte ou plus tôt dans la vie. Les troubles dépressifs et anxieux figurent parmi les plus fréquents chez les personnes vieillissantes. Le trouble digestif majeur, ce trouble se présente par une humeur triste ou un manque d'intérêt dans les activités habituelles. Les autres symptômes de ce trouble incluent des problèmes de poids ou d'appétit. Il y a de la fatigue aussi, des difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions, une baisse de l'estime de soi, penser aussi souvent à la mort. Donc, les symptômes sont présents depuis au moins 2 semaines. Si on parle de troubles dépressifs persistants, ben dans ce trouble, l'humeur triste est présente presque toute la journée, plus d'un jour sur deux, pendant au moins 2 ans. Et le dernier, les différents troubles anxieux, ces troubles ont en commun une peur excessive, de l'anxiété et des troubles du comportement. La raison de la peur varie selon le trouble. Dans la phobie spécifique, par exemple, la personne a peur d'objets ou de situations précises comme les insectes ou la vue du sang. L'agoraphobie est la peur de paniquer dans certains types de situations, par exemple, dans une foule, où il serait difficile de fuir ou de trouver de l'aide. Le trouble d'anxiété généralisé se manifeste par plusieurs inquiétudes exagérées sur différents sujets comme la santé et l'argent. Ces inquiétudes sont durables et difficiles à contrôler. Mais heureusement, il y a des traitements qui sont offerts par des professionnels de la santé, des réseaux publics et privés, et entre autres, il y a la psychothérapie pour traiter ces fameux symptômes dépressifs chez les aînés. Et pourquoi pas, dit-on? Qu'est-ce que la dépression? Environ une personne aînée sur 4 présente des symptômes de dépression. Ceux-ci se manifestent entre autres par une perte d'intérêt ou une perte de plaisir. Il y a de l'irritabilité ou encore de la tristesse, une faible estime de soi aussi, une tendance au retrait social, des difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions. Il y a un sentiment d'anxiété aussi, et des plaintes somatiques qui peuvent tromper le médecin, les douleurs, les insomnies, les baisses d'énergie ou la fatigue. Bien qu'il ne soit pas rare chez les personnes du troisième âge, il arrive que ces symptômes ne soient pas pris au sérieux. Souvent, certains aînés ou des membres de leur entourage, et même certains intervenants en santé, penseront à tort qu'ils font partie du vieillissement normal. En effet, certaines croyances populaires véhiculent des idées comme « il est normal de se sentir triste en vieillissant, de devenir plus irritable ou de se sentir inutile », ou encore « avec les pertes ou les deuils qui peuvent accompagner l'avancement en âge, on ne peut pas s'attendre à autre chose que d'être déprimé ». Et finalement, les personnes âgées sont fatiguées, ont moins d'énergie, donnent moins bien et ont de la difficulté à se concentrer. Ça, c'est vieillir. Mais ces signes ne font pas partie du vieillissement normal. Ils ne devraient pas être pris à la légère. Il est très important de consulter un professionnel de la santé lorsque des symptômes de dépression sont présents la plupart du temps, durent plusieurs semaines et affectent les activités de la personne. Alors, quelles sont les options à envisager pour le traitement? C'est le recours à de la médication, antidépresseurs entre autres, c'est souvent envisagé pour traiter les symptômes de dépression. Mais d'autres choix existent aussi, comme la psychothérapie. Ce type de traitement comporte plusieurs avantages, en particulier pour les aînés qui ne veulent pas ou ne peuvent pas prendre de médication à raison des risques d'effets indésirables ou d'interactions médicamenteuses possibles. Il est bon de savoir que des problèmes de santé physique peuvent provoquer des manifestations d'allure psychologique et vice-versa. Si vous avez des signes de dépression, il est important de consulter un professionnel compétent. Celui-ci réalisera une évaluation appropriée et pourra vous guider dans un choix de traitement adapté à votre situation. Maintenant, en finalité, qu'est-ce que la psychothérapie? La psychothérapie est un traitement efficace des symptômes dépressifs chez la personne d'âge mûr. Son but est de soulager une souffrance ou une difficulté de nature psychologique. Elle permet souvent à la personne d'effectuer certains changements dans sa vie afin de se sentir mieux. Consulter un psychologue ou un psychothérapeute peut vous aider à traverser un épisode dépressif. Adaptation difficile à la retraite, nouveau rôle d'aidant, problèmes de santé, perte d'autonomie ou plusieurs autres situations. Alors voilà! Vous avez quand même des avenues pour vous faire soigner, en fait. Alors, restez souriant et restez calme, surtout.
Une brève, donc, le plastique, c'est non.
Le champagne est moins bon lorsqu'il est bu dans des flûtes de plastique. Ça semble assez évident.
Ben.
Mais il a fallu une étude. Comme c'est toujours le cas aujourd'hui, un chercheur de l'Université du Texas à Austin, l'a affirmé. Les fines bulles qui le caractérisent collent davantage à la paroi des coupes de plastique et finissent par s'agglutiner et grossir. Or, c'est justement la finesse des bulles qui titillerait les papilles et rendrait l'expérience champagne si agréable.
Oui, c'est toute une nuance.
Effectivement.
Oui, moi aussi une brève. Vous savez que mars est le mois de la nutrition. Alors, il y a une entreprise qui nous facilite la vie pour manger des légumes. Plus besoin de coupe spirale, les fettuccini de légumes de l'entreprise Salade Express. Alors, on trouve des carottes, du navet, de la betterave. Permet d'avoir nos rubans de légumes déjà prêts à cuisiner. Il suffit de les faire bouillir, de les cuire à la vapeur ou de les faire sauter. Ces légumes polyvalents s'ajoutent à un sauté, se servent en remplacement des pâtes, accompagnent une viande ou garnissent nos sandwichs. Bonifier la valeur nutritive de nos repas n'aura jamais été aussi simple.
Merci beaucoup, Franceline. Merci à Roger. Merci pour cette émission. Et restez à l'écoute. Il y a l'émission Le quotidien des quotidiens qui s'en vient. On vous souhaite une excellente semaine.